Le grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Alain Waikai, un ancien enfant soldat de l'Ituri. Aujourd'hui, il est journaliste. Il va nous raconter sa vie, son expérience au sein de la milice en Ituri, où il est resté 2 ans, je crois, Alain. Si je ne me trompe pas.
3 ans.
3 ans.
3 ans, oui.
Il va nous parler de cette expérience, lui, en tant qu'enfant soldat, comment il a vécu ça, comment sa famille a vécu ça, comment il est arrivé à intégrer cette milice. C'est tout à l'heure dans notre entretien, mais avant cela, on va faire une petite biographie de sa personne. Il est né en 1987.
Oui, c'est ça.
Vous avez 27 ans, Alain.
27 ans pour le moment, oui.
Vous êtes né à Bounia.
Je suis né à Bounia.
C'est là où vous avez passé votre enfance.
J'ai passé mon enfance trop parce que mon père était pêcheur et il était à Tchomia. Donc c'est à Tchomia que j'ai passé mon enfance, entre Tchomia et Bounia de temps en temps. C'est là où la famille se trouve.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de Tchomia quand j'étais petit?
Oui, Tchomia, je peux le considérer comme mon village. C'est là où j'ai vécu mon enfance avec mon père, presque l'ensemble des membres de ma famille. Et c'est là où j'ai commencé le premier pas à l'école. Les souvenirs, c'est la vie là, d'aller chaque matin se baigner dans le lac Albert, mais aussi de manger les poissons frais. Mm-hmm. On est grandi qu'avec ça, on connaît que ça. On ne connaît pas, on ne connaît que des choses frais qui venaient de lac Albert, que le lac Albert nous a donné. Donc Tchomia m'a tout donné, je peux le dire, d'une manière bref, ouais.
C'est un village, mais un petit paradis.
C'est un petit paradis pour nous, mais aussi pour la famille. Donc, c'est là où on a aimé. Donc, on a passé l'ensemble de nos vies là-bas avec la famille, auprès de notre père, mais aussi de nos mamans et de toute la famille, mes sœurs. Donc, c'est ça vraiment notre paradis, quoi. Là où, donc, ça nous a tout donné, comme je l'ai dit.
Alors, si aujourd'hui, on vous demandait de rentrer à Tchomia pour y vivre, vous allez accepter?
Bien sûr, parce que Tchomia, depuis même que je suis à Kinshasa, je ne vois pas comment je peux comparer Tchomia avec Kinshasa.
C'est mieux que Kinshasa?
C'est mieux que Kinshasa parce que...
Sur quel plan, Alain?
Sur le plan même nutritionnel. Vous savez que, comme je l'ai dit, que Tchomia, on mangeait tout. Donc, le lac Albert nous donnait n'importe quelle sorte de poisson frais. Et c'est le lac, d'ailleurs, le plus poissonné du monde, si je peux le dire. Et nous sommes fiers quand on nous a appris ces histoires, que nous sommes nés là-bas et nous vivons avec ces lacs. Et nous, chaque matin, quand vous vous réveillez, vous voyez les frères venir des pêches, ils vous amènent des poissons et vous-même vous faites des balades sur les lacs. Donc c'est merveilleux quoi. Et ça, je le marque vraiment ici.
Alors à Tchomia, on a le poisson facilement, gratuitement, alors qu'à Kinshasa, ça coûte quand même cher les poissons frais.
Non seulement ça coûte cher, mais il faut peut-être préparer des jours spéciaux pour en avoir. Donc ce n'est pas facile pour moi qui ai grandi à Tchomia. Je me dis, mais je suis où? Tchomia, Kinshasa. Donc je me vois vraiment loin de ce que j'ai connu, dira toute mon enfance, mais aussi dans ma vie, quoi.
Mais rentrer à Tchomia, non?
Bien sûr.
Pourquoi
que je vais
vous
partir.
Retournez pas à Tchomia?
Bien sûr que je vais partir et je compte bien repartir dans le plus tôt possible. Dès que je finis mes études, je vais rentrer là-bas pour peut-être donner beaucoup plus mon expérience à mes frères que j'ai laissés là-bas pour qu'on aille en avant, quoi.
Alors, vous êtes en dernière année, vous faites des études de journalisme.
Oui, je suis ici à l'IFASIC, j'étudie à l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, et bientôt donc j'aurai mon diplôme de licence. Bientôt je vais finir.
Pourquoi vous avez choisi de faire le journalisme? C'est quelque chose que vous avez aimé depuis que vous êtes tout petit?
Oui, je pense que j'ai répondu plutôt à ce que la famille a toujours dit, malgré que j'étais très loin à Bounia, à Tchomia, là où on ne pouvait même pas imaginer si un enfant pouvait devenir journaliste et par quel moyen et par quel miracle. J'étais d'abord un enfant qui parlait beaucoup. Je parlais beaucoup, je faisais trop de bruit à la maison, mais aussi j'aimais suivre l'information. J'avais un grand frère qui était déjà 5e année des humanités, donc je me collais avec lui chaque fois qu'il écoutait la radio et je pleurais pour lui demander de m'expliquer ce qu'on disait à la radio, alors que je ne pouvais même pas écouter encore le français à l'époque. Et c'était quelle radio? Radio France Internationale, donc n'importe qui ne pouvait pas écouter facilement. Et alors un jour mon grand frère me dit, toi tu mérites d'être journaliste. Et je, bon, c'était venu comme ça, parce qu'on ne pouvait pas imaginer des Tchomia Bounia devenir journaliste. C'était vraiment je ne sais pas comment appeler ça, mais
vous dites que vous ne parliez même pas français.
J'étais encore à fin et j'étais, je ne sais pas, 3e année primaire. Donc je
Vous étudiez en quelle langue là-bas?
À Swahili.
En Swahili.
L'école primaire, nous, on a connu à Swahili. Donc le français, c'est venu après. Donc la base chez nous, c'est le swahili. On a même la langue swahili qui occupe une partie des cours qu'on nous donne. Donc c'est vraiment le swahili que nous on connaissait à l'époque. J'ai parlé d'abord le swahili, mais déjà je me débrouillais très bien parce que mon grand frère l'a parlé que le français. Et moi, j'étais avec lui à tout moment.
Il a vécu aussi à Chomia ou bien il était ailleurs
puis il était à Bunia et il venait de temps en temps à Chomia pour nous visiter parce qu'on vivait avec le papa à Chomia. Donc c'est quand il venait, c'était le meilleur ami à qui je me collais souvent, juste pour lui demander qu'est-ce que disait la radio et s'il pouvait m'expliquer et comment je pouvais parler le français. Il me disait que j'étais encore trop petit et que il fallait être patient d'abord.
Alors vous avez patienté aujourd'hui, vous êtes en dernière année.
Ouais,
ça fait plaisir de réaliser son rêve.
Oui, j'ai réalisé mon rêve parce que souvent quand les amis m'appellent, souvent quand ils m'écoutent sur Radio Capi où je pose parfois la question lors de la conférence de presse, mais aussi j'ai presté pendant 3 ans à la RTNC comme journaliste à la radio. Chaque matin quand on m'écoutait, ça faisait plaisir énorme et souvent mes amis m'appelaient, mes collègues de l'école disaient tu as vraiment réalisé ton rêve et on savait que tu allais devenir journaliste. Et donc pour moi c'est vraiment un pas réussi et ce n'était pas le hasard quand j'essaye de voir tout ce que j'ai été et tout ce que moi j'ai rêvé devenir.
Ouais. Alain Waïka, c'est quoi votre plat préféré?
Moi j'aime les haricots, je les mange 7 fois par semaine, je peux les manger le lundi, mardi, mercredi.
Je pensais que vous alliez me parler du poisson.
Les poissons, oui.
Parce qu'on en avait tellement mangé que...
J'ai mangé. Ma mère me disait que parmi tous les enfants chez nous, j'étais seulement le seul enfant qui posait peu de problèmes vis-à-vis des poissons. Chaque fois que je mangeais les poissons, quand j'étais encore enfant, je pleurais trop la nuit. Donc, on a remarqué que les poissons n'arrivaient pas du tout à me rassasier. Donc, c'était si que chaque fois mon père...
Ah, vous pleurez la nuit parce que vous n'étiez pas rassasié.
Parce que je mangeais les poissons. C'était si que mon père... a réussi par découvrir que c'était plutôt les haricots. Chaque fois que je mangeais les haricots, je dormais très bien et je ne pouvais même pas bouger la nuit ni se réveiller. C'est ainsi que chaque soir, quand je grandissais, j'attendais mon père. Dès qu'il faisait le pas dans la parcelle, il demandait « Est-ce que vous avez acheté les haricots pour cet enfant ?» Et on pouvait tout mettre sur la table, mais on ne manquait pas les haricots pour moi. Et c'est ainsi que même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je ne fais jamais 48 heures sans manger les haricots.
Alors Alain Waïka, vous avez 27 ans, je l'ai dit, vous êtes encore célibataire?
Oui, bien sûr.
Je l'ai dit dans mon introduction, Alain, que vous êtes un ancien enfant soldat de l'Itouri.
Ouais.
Vous avez été recruté à l'âge de 13 ans,
ouais,
alors que vous revenez de l'école.
Effectivement.
Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé.
En fait, l'Itouri, déjà général, était tombé dans la guerre tribale que tout le monde connaît, entre les Hema et les Lindou. Et nous sommes grandis...
C'était entre 2002 et 2003.
Ça a commencé normalement depuis 1999, mais ça a pris plutôt la pleure à partir de 2000, 2001, 2002, 2003. Et nous, on a passé presque toute la vie dans la collectivité qu'on appelle collectivité de Bahema Banyuagi. C'était l'une des collectivités qui était visée par ces conflit communautaire parce que la collectivité était dirigée par un certain chef qu'on appelait chef Kawa et c'est lui qui était beaucoup plus visé par les Lindou. Alors ça fait que la communauté puisse être directement concernée par les conflits entre les Lindou et les Hema. Et le recrutement même a commencé dans la collectivité de Bahema Banyuagi parce que c'est le chef lui-même de la collectivité qui avait pris la tête de la rébellion. C'était si que nous, parce qu'on vivait dans cette collectivité-là, directement on s'est senti à un moment donné concerné par ces conflits.
Alors que vous n'êtes ni, vous m'aviez dit que vous n'êtes ni Hema ni Lindou.
Je ne suis pas Hema ni Lindou, mais ma mère est Hema. Mm-hmm. Je partage quand même les 50% de Hema dans mon sang, mais mon père est Alour. Mais les Alour n'étaient pas du tout concernés par ces conflits et nous étions dans cette lignée-là de dire qu'on n'est pas concerné. On avait des instructions vraiment strictes de nos parents que ces conflits-là ne nous concernaient pas, mais la communauté en général était déjà guerre parce que même les Lindous déjà ne choisissaient pas qui était Hema, qui n'était pas Hema. Donc à un moment donné, la guerre l'a embrassé presque l'ensemble de la communauté. Donc c'est le fait de se retrouver dans cet environnement où les Hema Banyuagi étaient directement concernés par les conflits et nous aussi, on s'est retrouvés dans ces conflits. Quand le recrutement a démarré, quand les Hema ont lancé le recrutement, ils recrutaient bien sûr les gens sur base de l'ethnie. C'était beaucoup plus les Hema qui étaient concernés par le recrutement. Mais ça s'est fait que moi déjà, j'avais un ami qui était le petit frère propre de l'ancien chef de guerre qui lui était plutôt chargé de recrutement. Donc c'est cela qu'il m'a aussi recruté parmi les affaires qu'il recrutait. C'est ainsi que je me suis retrouvé directement remballé dans ces groupes-là et amené...
Alors vous sortez de l'école, on vous a recruté et ouais. Donc vous n'êtes même pas rentré chez vous à la maison?
Non, je ne suis pas rentré à la maison et même mes sœurs, mes frères, ma mère elle-même s'est rendue compte que je n'étais plus là et que j'étais déjà à une distance de 45 km en allant de Tchomia vers Bounia, mais on n'arrive pas à Bounia, c'est là où on appelle Mandro. Donc c'était sur la montagne, là où les MA avaient installé leur base.
Avec votre uniforme, votre cartable, on vous a emmené jusqu'à 40 km.
Ça a été, j'étais. Là, on est arrivé qu'avec les habits,
vous
donc l'uniforme.
Le
donc, oui, tout a été retiré et on s'est retrouvé qu'on était devenus des recrues à l'époque, on appelait des couples.
Mais lorsqu'on vous a recruté au sortir de l'école, qu'est-ce qu'on vous a dit?
Bon, en fait, on nous a juste dit qu'on allait accompagner, on allait transporter un colis qu'on allait amener quelque part. Il fallait aider juste de transporter un colis. Mais or, ces colis-là étaient plutôt des armes qu'on devait transporter. Et quand on est arrivé là-bas, on a trouvé d'autres gens qui ont été déjà bousculés, qui nous attendaient. Et du coup, on s'est retrouvé plus de 1000 tonnes sur la route. On montait sur la montagne.
Il n'y avait que des enfants ou bien c'était enfants, adultes
Enfants et adultes, mais il faut reconnaître qu'en Ituri, sur 100% des militaires qui ont combattu, des miliciens qui ont combattu en Ituri, les enfants faisaient partie des 70%. C'était beaucoup plus des enfants qui ont été visés par le recrutement. J'ai dit pourquoi le 70%, parce que déjà, les MA eux-mêmes donnaient leurs enfants avec des causes qu'eux défendaient comme une cause noble. Donc, vous trouvez une famille de 5 enfants où un parent donne facilement 2 enfants, il dit, aller rejoindre la guerre parce que vous devez défendre la
communauté.
La communauté. C'était si que 70% des gens qui se sont retrouvés dans l'armée à l'époque, c'était des enfants qui composaient cette milice-là, plus particulièrement la milice de M. Thomas Lubanga.
Ouais. Alors, vous vous retrouvez sur cette montagne-là, à plus ou moins 40 km de Tchomia.
Ouais.
Tchomia où il y avait vos parents et toute votre famille.
Oui, toute la famille. Et la famille s'est rendue compte que je n'étais plus là, que moi aussi j'étais parti à Mandro.
La famille s'est rendue compte après combien de temps?
Juste le matin, parce que le recrutement s'est fait le soir vers 14h, 15h, où on devait rentrer de l'école. Et c'est plutôt mes sœurs qui ont été formées premièrement, parce que déjà, mes sœurs me surveillaient beaucoup, parce qu'elles savaient qu'il y avait une vague de recrutement qui se faisait d'une manière clandestine dans la cité. Directement, quand ils se sont rendus compte, ils sont allés à la résidence du chef pour se rendre compte si réellement moi aussi j'étais recruté. Et là, ils étaient formés qu'il semble que j'étais parti parmi les enfants qui ont été recrutés ce soir-là.
Lorsque vous parlez de la résidence du chef, quel chef?
C'était le chef à ce que j'ai mentionné au début, le chef coutumier de la collectivité là où nous on vivait, de la collectivité de Bahama Banyuagi, le chef Kawa. C'est dans sa résidence que la coordination du recrutement s'est passée et tous les militaires qui venaient recruter passaient par lui parce que c'est lui en fait qui était déjà le chef direct de la communauté mais aussi de la milice, qui s'est créée déjà, qui était à court de création. Et mes sœurs sont rentrées à la maison, ma mère a pleuré toute la nuit, elle n'a jamais réussi à concevoir parce qu'il faut rappeler ici que mon père était un polygame et que chez ma mère, nous étions qu'au nombre de 2 garçons avec au moins 8 filles. Donc j'étais entre autres comme un garçon protégé de mes sœurs. Donc ce n'était pas du tout facile à mes sœurs de concevoir que j'étais parti.
Pas seulement pour vos sœurs, mais pour votre mère aussi, c'était difficile
pour ma mère,
difficile
qui
pour
déjà
elle.
Pour elle, c'était vraiment, chaque fois qu'elle me voyait le matin, chaque fois qu'elle me voyait circuler, passer avec la moto, c'était une fierté pour elle. Et du coup, elle se rend compte que je ne suis pas là. Et pour une mère ou une communauté qu'on connaît qui est la milice, tout de suite, elle s'est dit que mon enfant va mourir peut-être demain matin. Donc pour elle, j'étais quelqu'un qui n'était plus vivant. Donc c'était difficile pour ma mère d'accepter, mais aussi de vivre avec la situation.
Racontez-nous un peu comment ça s'est passé dans le camp où vous étiez logé.
C'était très très difficile parce que d'abord, il faut, pour les gens qui maîtrisent bien l'Ituri, Mandro se trouve à 12 km de Bounia, vers le nord, à 12 km. Et c'est un lieu où il fait très froid, du 1er au 30. Et vous vous rendez compte que
je connais un peu les climats.
Oui, vous vous rendez compte que nous à Tchomia déjà, on est tout près de lac Albert et il fait chaud naturellement à Tchomia. Du coup, vous vous retrouvez à Mandro comme ça, dans la brousse. En arrivant là-bas, il y a des militaires qui étaient déjà là-bas, des gens que nous on appelait des grands frères qui étaient déjà dans la guérilla il y a quelques années déjà, qui sont venus comme des chefs qui devaient maintenant cadrer les nouveaux recrues. Et ces gens-là, leurs conditions de vie n'étaient pas du tout normales. Parfois, ils n'ont pas des habits et directement ils s'attaquent aux nouveaux vous venez, si vous avez une chemise qu'on peut utiliser, on prend votre chemise et on vous donne l'autre peut-être qui n'est pas du tout dans des conditions normales.
C'était un peu la bleusaille quoi.
La bleusaille, on dit que vous êtes personne parce qu'elle écrit déjà dans l'armée, on dit que vous êtes personne, même si vous mourrez, vous n'avez pas d'essence. Vous n'avez pas les mots à dire devant quelqu'un qui est déjà militaire, qui lui va vous encadrer, va vous former. C'est ainsi que mon arrivée sur ce site n'était pas du tout facile parce que après tout, je suis sorti d'une famille bien structurée où chaque fois pouvait dormir dans des conditions qu'il faut et bien manger, bien s'habiller pour aller à l'école. Mais là, tu te racontes que tu te retrouves dans un milieu où tu n'as plus le droit de dormir, tu n'as même pas les lieux où tu dois dormir. Et votre culotte est amenée par quelqu'un d'autre, on vous donne d'autres culottes qui a déjà donc ce n'est pas du tout facile. Donc du coup, je me suis retrouvé dans la vie où je me suis dit qu'ici c'est la fin parce que vous avez passé d'abord.
Vous n'avez pas pensé à fuir, c'était impossible, c'était difficile.
C'était un danger qu'il ne fallait pas prendre parce que l'IPC de Thomas Lubanga avait une méthode vraiment radicale. Si on attrape quelqu'un en train de faire une tentative de fuir, il n'y avait pas d'autre remède que de tirer une balle dans ta tête. Ça vous prévient que ici on ne blague pas.
Si vous faites ça, vous aussi,
donc vous aussi vous allez partir.
Vous allez subir le même sort.
Donc, ici, voici les ordres et c'est comme ça. C'est chaque jour où vous voyez un de votre collègues tué et ça vous prévient que vous ne devez pas faire. Et moi, je n'étais pas prêt pour mourir parce que je passais toujours à ma mère. Et je devais vraiment me conformer à tout ce qui s'est passé sur cette terre.
Vous étiez un enfant soldat très respectueux des ordres, des règles.
Oui, je faisais vraiment mon effort de ne pas me retrouver dans... Déjà, je me suis dit que je suis ici, il faut vraiment faire attention parce que je passais toujours à ma mère, à mes sœurs qui ont beaucoup fait pour me faire devenir ce que j'étais. Et ils avaient tellement d'espoir que je puisse grandir. Donc je me suis dit que je ne peux pas faire le hasard de me retrouver un cadavre. D'abord, personne ne va informer que j'ai été tué ici. Donc je faisais vraiment mon effort de respecter, d'être toujours là. Et ce n'était pas du tout facile parce que vous ne dormez pas, peut-être vous dormez à 4 heures.
Vous étiez formé, on vous apprenait à manier les armes.
Dès notre arrivée, d'abord, on faisait quelque chose d'une manière de test pour voir votre capacité. On vous donne une arme AK-47, une Kalachnikov, avec les poches que nous appelons dans l'armée, les poches avec des chargeurs de balles bien remplis. Et on vous demande de faire le tour de votre centre de formation peut-être 20 fois. Si vous ne tombez pas, donc on dit qu'il est fort. Il peut déjà commencer. Et si même vous tombez ou vous démontrez que vous êtes faible, c'est d'ailleurs très dangereux parce qu'on n'accepte pas que vous rentrez. Et moi, j'ai fait mon effort de passer ces tests-là, de courir. Mais c'était vraiment, une fois de plus, c'était pas du tout facile. C'était vraiment pénible.
Pour un enfant de 13 ans,
oui,
quand même.
Vous êtes habitué à dormir tôt. Mais là, vous vous retrouvez que vous n'avez pas le droit de dormir. Vous faites votre formation militaire toute la journée. À partir de 5 heures, vous êtes déjà debout. Et le soir, vous vous retrouvez à 19 heures. Vous mangez à 18 heures de nourriture dans des conditions extrêmement... Je ne sais pas comment identifier. On prend les haricots avec le maïs mélangé ensemble. Ça, qu'on puisse même enlever
sans
des saletés.
Et
on met ensemble, ça va. Imaginez le maïs avec l'haricot qu'on doit préparer ensemble. On dit que vraiment c'est cuit. Et donc, vous pouvez le manger. Et vous le mangez dans des conditions vraiment des militaires.
C'était dur, mais vous avez tenu quand même, parce que vous êtes resté là pendant 2 ans.
Oui, j'ai tenu. La formation, déjà à Mandre d'abord, ça ne durait pas, parce que c'était une formation qu'eux appelaient de vite fait. Il fallait juste montrer à quelqu'un comment manier les armes, parce qu'il fallait préparer l'offensive à l'époque contre Mbusso Nyamwisi, parce que Bounia était encore contrôlé par RCD. Et Thomas Lubanga, le chef Kawa, était dans l'urgence d'aller attaquer la ville de Bounia pour récupérer l'Ituri. Donc il fallait former les militaires d'une manière rapide. Mais aussi, chaque jour, on était attaqué par les militaires de Mbusso. Donc il fallait déplacer les recrues chaque nuit. Aujourd'hui, vous êtes sur l'autre montagne. Aujourd'hui, vous dormez vers l'autre côté. Donc c'était chaque jour où on faisait face soit à l'attaque de l'Hindou, qui n'était pas du tout loin de notre centre de formation, qui voulait coûte que coûte déstabiliser cette formation-là avec l'appui de RCD qui s'en gagne à l'époque, de Mbusso Nyamwisi. Donc on était attaqué chaque nuit. Donc on vivait une vie de...
Ça devrait être traumatisant.
Oui, donc on changeait les cas chaque nuit et vous marchez, d'ailleurs, vous n'avez même pas de quoi porter comme babouche.
Il y a,
c'est une zone, oui, pieds nus, c'est une zone d'abord. Vous trouvez des cailloux partout, des caillasses par-ci, par-là, où vous devez grimper des montagnes. Vous n'avez pas de jaquette, il fait froid la nuit, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est à quelques mètres de vous parce qu'il y a des brouillards où il fait froid. Mais ça, vous devez supporter, vous n'avez pas les choix. Vous voyez votre collègue qui n'arrive pas à tenir, il trouve la mort parce qu'il a attrapé des fièvres, donc il n'y a pas de médicaments, il trouve
donc
la mort.
Donc vous avez combattu.
Et moi, j'ai résisté à tout ça et je faisais mon effort. Dieu merci, je n'ai jamais tombé malade et je n'ai pas connu des problèmes particuliers de santé.
Vous êtes allé en guerre contre vos ennemis.
Nous sommes allés à guerre après la formation. Il fallait maintenant descendre pour aller combattre. Imaginez, vous avez une arme et on vous dit, aujourd'hui, vous allez combattre. Donc, c'était encore une autre étape. Il fallait tirer. Et vous quittez directement les centres de formation où vous vous retrouvez sur le champ de bataille. Et une fois de plus, c'était pas du tout facile.
Vous l'avez fait.
Je l'ai fait.
Vous avez tué.
Et vous avez tiré. Je tire sur un être humain. Vous dites, mais est-ce que c'est moi qui tire? Et à un moment donné, vous vous rendez compte que si vous ne le faites pas,
c'est vous qui
serez
tué.
Quelqu'un d'autre le fera à votre place. Donc soit c'est vous qu'on va tirer. Et j'étais obligé.
Alors, lorsque vous avez tué quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
Je n'ai pas dormi toute la nuit parce que je me voyais toujours sur le champ de bataille. Ça arrivait de temps en temps, pas seulement à moi, mais à tous les autres enfants. Vous voyez un enfant se réveiller comme ça, il tire une balle, il pense qu'on est en train de l'attaquer, il se croit au front. Et ça arrivait, des insomnies comme ça arrivaient à tout moment. Vous dormez, vous vous rendez compte que quelqu'un est en train de tirer sur vous et vous criez et vous tirez une balle. Donc il y avait des coups de balle dans nos camps militaires à tout moment parce que ces enfants-là n'arrivaient pas du tout. Mais heureusement pour moi, je n'ai pas trop traîné dans ces cas-là parce que directement quand nous avons récupéré la ville de Bunia, Thomas Lubanga, après l'arrestation de l'ancien ministre des Droits Humains, Tumbaloaba, dont on a fait l'échange avec...
Vous l'avez pris en otage.
On l'a pris en otage dans notre base militaire juste pour permettre la libération de notre chef, Thomas Lubanga, qui était retenu à Kinshasa à l'époque. Et quand il était venu, moi quand je suis rentré du champ de bataille, directement j'ai été nommé, choisi parmi les gardes rapprochés de Thomas Lubanga, juste après la libération de Thomas Lubanga de Kinshasa. Et là je me suis retrouvé au moins dans la résidence de Thomas Lubanga où je ne pouvais plus combattre si ce n'est que de protéger un chef. Mm-hmm. C'est ce qui m'a sauvé un peu de quitter ce champ-là de bataille. Peut-être j'ai réussi à se sauver à partir de cela parce que quand on est garde du corps d'un président, comme parce qu'il était président, j'étais à la présidence donc du mouvement de la rébellion. Et là, j'étais une fois de plus nommé encore secrétaire de la garde présidentielle parce que, au fait, parmi tous les affaires de la présidence, il n'y avait même pas un seul militaire qui avait atteint même 6e année primaire. Mm-hmm. Donc j'étais le seul qu'on pouvait retrouver un garçon qui a réussi quand même à être à 4e année, à 3e année des humanités. Et ça m'a permis d'être nommé par le commandant de la garde présidentielle comme secrétaire de la garde présidentielle. Et je pouvais dormir à la maison, je pouvais bien manger comme un officier.
Dormir à la maison, ça veut dire
donc,
à la résidence.
Dans la résidence. Avec les chefs.
Mais là, vous aviez eu quand même le temps d'aller voir votre famille.
C'est à ce moment-là que je suis rentré dans la ville, parce qu'en fait, depuis que je suis allé dans la brousse pour la formation militaire, c'est seulement quand je suis rentré comme garde du corps de Thomas Lubanga que j'ai eu l'état donc, de rester et de dormir à la maison, d'aller visiter ma famille.
Alors, on va souffler un peu. Vous aimez la musique?
Oui, j'aime la musique.
Quel genre de musique?
J'aime... Fali Poupa, j'ai musique qu'on appelle à Kinshasa ici, je ne sais pas, profane ou comment, j'aime ça. Mais aussi, je suis beaucoup plus fan d'Ale Moloto. J'aime écouter Ale Moloto et c'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré.
Alors, on retient que vous aimez la musique. Comme vous aimez Fali Poupa, vous voulez qu'on propose quel titre?
Peut-être Attente.
Attente de Fali.
Oui,
pourquoi
de Fali,
Attente?
Pourquoi Attente? Bon, ça fait partie des chansons de son album que j'écoutais beaucoup. J'écoutais beaucoup et je ne tiens pas trop à décortiquer ce que les musiciens disent. Moi, je me limite à la définition de l'harmonie. des sons agréables à l'oreille. Mm-hmm. Et j'ai dit que d'autres histoires, parfois, ça...
Encore par rapport à votre histoire, attente, vous étiez dans l'attente de quitter cette milice, peut-être?
Oui, à un certain moment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il fallait quitter nécessairement parce que chaque jour, la mort, et tu te disais que peut-être demain, c'est moi. Il fallait nécessairement, vraiment, s'attendre de quitter cela.
Alors, Alain, mm-hmm. Ouais, on va vous faire plaisir en écoutant cette chanson Attente de Fally Ipupa, pas seulement pour votre plaisir, mais pour le plaisir aussi de tous ceux qui aiment Fally Ipupa, qui nous suivent en ce moment sur Radio Kapi à Chomia, en Ituri, à Bunia, partout là-bas, même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiokapi.net. Merci Sylvain Matundu de nous balancer la musique. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Attente. Oh, tozela, tozela. Bon, ton dimi tokozela basi. Mais tu côté les mawapi. Santa la fe, maman bota, je veni ma boîte.
Bazawapi, wapi bango. Baye balo baka ke boli mweza la kate. Bongo ye kweli ngalelo e zanini. Nakuta nino mote manange.
Mon major Vane, yasa mimi kobi.
Nanakola, nanayuma, mbafa mi babula kanga na zala sango. Yo kertibe bapla ya vinangayi, fongi aboli mwezi pinati nasuki. Ya moto, ezola misangayi, nazola nanango, jukeli. Tena nyo some na bolingo na ngate. Tena nyo some na bolingo na ngate mafwata. Malakola, nangayuma. Mbafami babula kanga na zala sango. Yo pertibe bapla ya vinangayi. Pongia bolingo enzi pinati nasu. Boli mwe pesi nga droa yebele. Boli mwe pesi nga droa yebele. Tama. Ya gole la samba beta ai. Ya vata nga soyi sambo nala. Kizengi Josebi.
Amigo Tieni Tabwanda. Benga General Grada Nkumbu. Ejo Lubaki. Bobby Masamba, Papa Jerry Makitakana, Eva Lakasumbo Mayele Dina Cheche.
Salabasi metere na kebusa ni musika na ngako na boli moyo besi kai. Salasuki na mepe meko miko ine mwomo kubane oreside yoli.
Moto azela kamasu azela kana lipongo. Moto azela ka avion azela kana aeroport. Moto azela kalokalo azela kananga. Moto azela kabuli mwetele makawa biye bitanga yi. Onga azela kayo. Ye 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 ye. No 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 no. Shazeli mapwata mubali ya jade kabuti.
Kala basi metele na mebusa ni musika na ngako na boli moyo pesi.
Basi lengi ye. Jamila,
I'm
going to go to the city. na bile yo komi okine langa moko mabwaka yo bandi na kwa yo moko eske par le nord te mana yo se reunir kanabiso mi bale se di mpoto
jige boyo kuki kakiese
nasi na diminue mwinda ndenge yo kisa emani mwanza télévision zota la se popi mela Bruno di Kambonga kisanga epayi na kozwa kisema oyo pesa kama jour et nuit na misana na yo
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Alain Waikai, un ancien enfant soldat de l'Ituri. Aujourd'hui, il est journaliste. Il travaille pour
la télévision centrale de Chine, la CCTV, après avoir quitté la RTLC. Oui, ouais.
Ah, voilà. Vous parlez un peu chinois ou bien les programmes sont en français?
Non, les programmes, c'est en français et en anglais. Il y a deux chaînes au niveau de Beijing qui émettent en français et en anglais. Et pour l'anglais, le studio est basé à Nairobi. Donc nous, on travaille pour ces deux chaînes-là, la correspondance de Kinshasa. Je suis journaliste et reporter là-bas.
Ah, lorsque vous êtes rentré à la résidence comme garde du corps de Thomas Lubanga, vous avez eu le temps de rendre visite à votre famille. Vous l'avez dit, c'était quoi leur réaction lorsqu'ils vous ont vu? Est-ce qu'on vous a accepté facilement? Vous n'avez pas été rejeté par la famille, les amis?
Bon, moi personnellement je n'étais pas rejeté, mais j'étais très mal vu par plusieurs de mes frères qui sérieusement ne voulaient pas me voir dans leur parcelle, parce que eux ne voulaient même pas avoir le contact avec des miliciens, parce que pour eux déjà la guerre là n'était pas justifiée. Mais aussi les alours, comme mes frères sont tous des alours, ne se sentaient pas du tout concernés par les conflits en Ituri. Même si les Lindou tuaient parfois les alours, mais on se disait toujours qu'il y a un principe, cette guerre ne nous concerne pas. Donc j'ai eu des frères où je n'ai pas pu mettre mes deux pieds dans leur parcelle jusqu'au bout. Je suis venu dans une famille où il y a beaucoup plus de chrétiens, de pasteurs, des gens qui occupent des fonctions dans des églises, qui pour eux, ça ne se justifie pas qu'un enfant de la famille où on a envoyé à l'école, du coup devient un militaire et passe avec des Karachinikov dans la parcelle. Donc il y a des frères rouges qui ont catégoriquement refusé que j'approche leur parcelle. Mais néanmoins, ma famille, d'une manière générale, quand ils ont attendu que j'étais vivant après la guerre qui s'est déroulée de libération où on chassait Mboussa Nyamwisi, j'ai réussi quand même à être vivant. Pour eux, c'était aussi, peut-être il fallait dire gloire à Dieu. Ma mère tenait vraiment à me voir, mes sœurs. Quand je suis parti à la maison, c'était derrière l'occasion où une de mes sœurs avait perdu un enfant. Je suis parti, j'étais vraiment accueilli. Et pour eux, c'était une fierté de voir finalement que j'étais dans la ville. Je pouvais passer avec une Jeep, ils pourraient me voir facilement, qu'il est là, il est vivant. Le soir, je pouvais aller aussi à la maison manger et rentrer à la résidence.
À la résidence.
Donc,
le
souci était peu diminué.
Voilà.
Ils ont un peu diminué leur tension parce qu'ils savaient que j'étais là.
Alors, en étant garde du corps de Thomas Lubanga, qui était chef, en ce moment-là, en Ituri, ça vous a permis de rencontrer plusieurs personnalités.
Oui, effectivement. Ça m'a vraiment permis de rencontrer plusieurs personnalités, parce que vous savez, les leaders de la rébellion, ils ont toujours la chance de faire pas mal de tours à travers la région ou bien à travers le pays. C'est ainsi que moi, avec Thomas Lubanga, on a beaucoup circulé. J'étais plusieurs fois avec lui à Kampala, à Kigali, à Tanzanie.
Pour parler
où il devait rencontrer déjà pour préparer la négociation, comment les choses devaient se passer, cesser les feux. Chaque fois qu'il devait se déplacer, j'étais dans l'équipe qui devait aller avec lui, parce que j'étais secrétaire, mais aussi parce que Thomas Lubanga tenait beaucoup à être formé de l'évolution des enfants soldats qui étaient dans sa résidence, parce qu'il aimait voir ces enfants-là autour de lui. Donc, les enfants, tellement que les enfants fouillaient chaque jour, et je devais lui rendre compte que non, aujourd'hui, 5 enfants sont partis partis, 10 ont fui parce que les enfants n'arrivaient pas à tenir à cette pression-là de protéger la résidence où ils ne devaient pas dormir.
Mais vous, finalement, vous avez pris goût à cette vie de milicien.
Moi, j'ai pris goût. Sincèrement, j'ai pris goût parce que quand je me suis retrouvé à Bounia, j'ai commencé à prendre un peu le goût d'être un officier, d'être un officiel.
À avoir certains privilèges.
À la résidence, se retrouver le matin à Bounia, le soir à Kampala, dans l'avion. Vous savez que, sincèrement, jusqu'à ce niveau-là, je n'avais pas encore pris l'avion. Ce n'est qu'à la rébellion que je suis. J'ai monté dans l'avion. Donc, ça m'a permis de prendre un peu goût. Je me suis dit que, tiens, la rébellion, il y a un peu le goût. Donc, j'ai oublié que j'étais un enfant soldat et que je devais rentrer à la maison. Je me suis dit que non, ça va parce que là, je peux très bien manger. Je suis à la résidence du chef, donc tout le monde nous observe. S'il y a des réunions dans des stades où le président doit aller parler, c'est nous, la garde présidentielle, qu'on fait parfois des attraits triomphales au stade. Donc tout le monde nous envie. Et moi, je me suis dit que je ne peux pas partir comme ça. Je dois rester.
Voilà. Après ce moment passé dans la milice de Thomas Lubanga, un jour, on a commencé ce processus de désarmement.
Oui.
C'était après les négociations pour la pacification. Il fallait pacifier le pays.
Ouais.
Le processus a commencé.
Ouais. Donc le processus a commencé. Là déjà, il faut d'abord souligner que l'IPC, moi je n'ai pas passé toutes les carrières de la milice au sein de l'IPC. L'IPC de Thomas Lubanga, à un moment donné, s'est divisé à deux parties. Il y a le ministre de la Défense, donc le chef qui nous avait recruté, le chef Kawa, qui lui, quand l'IPC s'est installé à Bounia, était devenu ministre de la Défense. Il a eu des ennuis avec Thomas Lubanga, donc il a quitté l'IPC avant que l'IPC soit défait par les Ougandais. Donc nous étions parmi les militaires qui ont fait défection avec lui pour aller en Ouganda. C'est ainsi que je me suis retrouvé maintenant avec le chef Kawa, qui créera d'autres partis à l'époque appelés les PISIC, Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo. Et avec lui encore une fois de plus, ça va sourire, je deviendrai son chef garde du corps au niveau de Kampala. Et c'est avec lui que Thomas Lubanga a été chassé par les Ougandais. On va rentrer à Bounia en 2003 avec le fameux processus qu'on a appelé la CPI, la Commission de pacification de l'Ituri, coordonnée à l'époque par Vital Kamerhe ici à Kinshasa. Donc c'est lui qui était l'acteur principal de là, parce qu'avec lui il a dit c'est inutile de continuer avec la réalité de la guerre. Il fallait donc pacifier l'Ituri, réunifier les Lendu et les M assemblés autour de la mission à l'époque, la Monique, qui avait fait beaucoup d'efforts pour cette commission-là. Donc, on est rentré à Bounia après le départ de Thomas Lubanga avec les chefs. Donc, j'ai coordonné la sécurité au même moment au niveau de Kampala et en RDC. Et c'est dans cette lignée-là que DDR-R va démarrer à l'époque. J'étais parmi les trois premiers à avoir déposé les armes parce que j'avais une pression de la famille, mais aussi de ma mère qui voulait vraiment que je rentre à la maison pour mais aussi prendre le souhait de ma mère qui, visiblement, c'était à moi d'attaquer un garçon de la famille qui devait...
Mais vous-même, personnellement, vous n'étiez pas prêt à déposer les armes?
J'étais prêt, mais sauf qu'avec le chef Kawa, ça n'a pas avancé vite parce que dans le processus, il a réussi à démobiliser tous ses militaires, mais j'étais resté le seul avec lui, juste avec quelques 5-6 militaires où il ne voulait pas se débarrasser de nous. Parce que d'abord c'est un chef qui m'a beaucoup aimé, je l'ai aimé aussi, je voulais vraiment, je tenais à travailler avec lui, mais les choses évoluaient tellement vite qu'il fallait mettre fin à toutes ces histoires de la milice. Donc il n'avait plus de militaires, mais j'ai demeuré avec lui pendant plus d'une année et demie, de le servir toujours comme militaire, son chef garde du corps, son garde du corps rapproché. Donc j'étais devenu comme un policier vis-à-vis de lui. Je n'étais plus milicien, mais même si je détenais encore les armes, parce qu'après, dans ce processus de la commission de pacification, on avait reconnu 10 gardes du corps dans la résidence de chaque belligérant. Et les 10 armes chez nous, c'était moi qui les détenais avec les 10 militaires que moi je dirigeais. Donc je n'ai pas quitté la milice vite comme les autres, juste à cause de ce chef-là qui tenait à corps être avec moi. Donc j'étais dans l'ensemble des processus parce que lui, il était à la tête de tout ce qui s'est passé à Ituri. C'est ce qui a fait que je puisse être retenu pendant longtemps avec lui, malgré que l'FRDC était déjà là, la MONUC était là, mais lui, comme il devait voyager par-ci, par-là pour négocier le processus.
Vous voulez que vous soyez avec lui?
J'étais toujours avec lui et j'étais resté le seul garde du corps qui devait voyager avec lui partout, parce que j'étais devenu comme un aide du camp de ce chef-là d'une manière directe. Donc c'est ce qui m'a retenu un peu.
Et finalement,
je lui ai dit que je devais partir. je devais partir parce que ma mère avait besoin de moi. Mais lui, comme il avait le projet de venir intégrer le processus à Kinshasa, il tenait aussi de venir avec moi parce qu'il avait constaté que j'étais un garçon intelligent. Il disait que je ne pouvais pas te laisser comme ça, il faudrait que tu rentres à l'école parce que tu promets beaucoup de choses. Je ne peux pas accepter que tu restes comme ça. Mais à un moment donné, il a souhaité que je puisse aller dans le processus d'intégration des FARDC parce que là, il faudrait aussi envoyer quelques militaires de notre groupe pour intégrer l'armée. Malheureusement, ma mère ne voulait pas et moi aussi je ne voulais pas ça. Je tenais à rentrer.
Vous avez choisi la réintégration sociale.
J'ai choisi la réintégration sociale parce que je voulais continuer avec les études. Pour moi, les études étaient encore quelque chose qu'il fallait compléter. Et tous mes amis avec qui on étudiait ensemble étaient devenus des diplômés. Les autres partaient déjà à l'université. Et moi, je disais, je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai déjà fait un an dans la communauté. Et il fallait maintenant continuer avec les études. Si bien que ça n'allait pas être facile, commandant civil à l'école, je me disais, est-ce qu'on va encore me respecter? Mais je tenais néanmoins de réintégrer parce que j'avais confiance au nom de ma famille. C'était une famille connue dans la communauté. Pour moi, c'était facile de réintégrer cette famille-là.
Alors, vous avez réintégré la famille, vous avez repris vos études, vous avez eu votre diplôme d'État.
Ouais.
Vous avez fait quelles humanités?
J'ai fait la pédagogie, mais les études, je ne l'ai pas directement reprise à Bunia ou à Tchomia. À Tchomia, d'abord, quand j'ai quitté l'armée, directement comme j'avais un an, les enfants m'écoutaient, les militaires, beaucoup de militaires, c'était des militaires que nous, on a dirigés, des militaires qui nous ont vu occuper des positions tellement élevées. J'étais d'abord sollicité par des ONG qui, à l'époque, étaient directement concernées par la démobilisation. Il y avait un programme qu'on appelait à l'époque CESA. CESA était un programme financé par PNUD et la MONUC à l'époque, qui consistait à sensibiliser les enfants de l'Ituri à se désengager de la milice. Ça fait que moi aussi j'ai été recruté dans ces programmes-là et j'ai travaillé activement pour sensibiliser la communauté, mais aussi à contribuer pour que mes amis, mes anciens compagnons puissent intégrer le processus de démobilisation. Et je suis resté dans ces programmes jusqu'à ce que j'ai été recruté par Vodacom et j'ai commencé à travailler. C'est après ça que je suis venu à Kinshasa continuer avec les études.
Et à Kinshasa, vous avez obtenu votre diplôme, vous avez comment c'est l'université.
Oui, j'ai obtenu mon diplôme ici avec 60% et j'ai commencé l'université et j'ai choisi directement d'aller à l'IFASIC et j'ai obtenu mon diplôme de graduat et je me suis dit que je ne pouvais pas me limiter là, il fallait vraiment que j'aille très loin et là je suis presque à la fin, bientôt j'aurai mon diplôme de licence.
Ouais. Alain, c'était vraiment un plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est pas une histoire facile hein, pour un enfant de 13 ans de vivre tout ce traumatisme là pendant son enfance. Vous avez choisi la réintégration sociale qui a réussi pour vous?
Ouais. Pour moi, c'est une réussite parce que beaucoup de mes amis n'ont pas réussi à le faire. Les autres sont aujourd'hui arrêtés suite à des actes qu'ils ont eu à poser pendant la rébellion. Mais moi, je l'ai réussi facilement. Je suis devenu aujourd'hui comme un modèle pour les autres car les amis m'écoutent et même disent qu'ils sont fiers de moi parce que de la milice, de tous les risques qu'on a parcourus, devenir aujourd'hui un journaliste, travailler aujourd'hui pour le bien aussi de la communauté, devenir un porte-parole, ce n'est pas facile.
Voilà. Donc, peut-être que tu as un dernier mot.
Le dernier mot, je peux peut-être parler directement à mes amis, mes anciens compagnons, collègues qui sont à Bunia pour
que
leur
vous
dire
en ce moment, parce que Kapi est très suivi à Bunia.
Ouais, mais aussi pour la communauté, il faut toujours lancer le message de dire qu'il faut éviter la guerre, mais surtout il faut éviter d'impliquer les enfants parce que ce n'est toujours pas facile à un enfant de se réintégrer après la milice ou bien après le traumatisme de la guerre. Si ça réussit avec moi, ça ne réussit toujours pas avec les autres. Donc il faut carrément éviter cela et mettre les enfants à l'abri mais surtout les conflits communautaires, il faut éviter. D'une manière ou d'une autre, ça finit par avoir des répercussions négatives.
Très beau message, ouais. Alain Waikai. Merci à Sylvain Matundu qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.